Charles Van Lerberghe, Reine Illusion. La lune en son plein apparaissait au-dessus des légers arbustes. Le jardin s'éveillait sans bruit, mobile, baigné de rêves. En même temps, une délicieuse fraîcheur pénétrait les airs, due sans doute à la crue du lac qu'on entrevoyait sous les branches comme une plaine métallique et dont les limpides eaux, grâce à un système d'écluses, alimentaient le bassin de la calme villa. C'était le soir d'un ardent jour d'été. Là était assise autour d'une table dressée sur la pelouse et à prendre le thé en cette heure paisible, une famille de notables négociants hollandais dans l'exportation des harengs. On avait causé d'affaires. Maintenant, un abandon se faisait. Un peu du rêve de ce merveilleux soir avait fini par pénétrer jusqu'à ces graves questions par les félédons ne sait quoi de bleu. Ce n'était désormais plus chose à se dire. Chacun le sentait, s'y adonnait en soi-même, non sans quelque charme explicite, ainsi qu'à une trêve de l'esprit, une récréation en somme innocente, une petite condescendance à ses illusions. On se taisait donc et à la fumée des pipes se mettait un peu de lune. Un léger craquement du côté des écluses, chose du reste absolument insignifiante et causée par la pression des eaux sur calcaire vermoulu, suffit cependant, tant le rêve est chose fragile, à en détourner le cours et à ramener les esprits au réel. L'ascension se porta sur le bassin, et le père y mit un soucieux conseil à Blanche, une adorable jeune fille qui s'y baignait et reposait sur ses longs cheveux blonds en contemplant le ciel. Le soir fraîchissait. Mieux valait que cette paresseuse pose-là se donner quelques mouvements, et puis ajouta-t-il en se tournant vers ses voisins, « Il est utile d'apprendre à nager, même pour une jeune fille. » On fut généralement de cet avis. La baigneuse seule semblait s'en tenir aucun compte, et il n'eut pour l'appuyer que son oncle, un homme à l'air placide, assis sur la berge et qui pêchait à la ligne. Tout l'art, selon lui, était là, flotter. Puis il y avait ce soir une quantité de poissons vraiment miraculeuse. « Étonnez !» poussa-t-il en étouffant sa voix. « En voilà encore un qui mord !» La conversation revint sur Blanche. Une vieille dame à tire-bouchon, qui tenait sur ses genoux un grand chien, se scandalisa. Mais comment se faisait-il, à présent que les nouveautés de laine étaient partout à si bas prix, qu'on n'eût pas encore songé à lui donner un léger costume. On était bien en famille, et c'était le soir, mais il y a des yeux indiscrets jusque dans les caves. On résolut d'y remédier, et le pasteur, qui était assis le dos tourné au bassin, perpétua cette sage résolution d'un long hochement de tête pensif, tandis qu'il s'arrêtait de boire à la fine tasse de chine bleue que, comme une fleur, il tenait. La jeune fille, en effet, était nue, et son insidieuse position sur le dos aggravait considérablement combien plus de tel soir l'indécent de cette nudité visible. Cependant, elle regardait toujours le ciel. L'azur était devenu plus profond et plus sombre. La lune, maintenant très haute, l'enveloppait de ses reflets, s'éparpillait dans sa chevelure, s'élargissait au miroir infini des eaux et de ses yeux. Longtemps elle la regarda. Il lui semblait que doucement elle s'en rapprochait, et tout à coup une ondulation la souleva, une vague immense sous elle, sourde d'une volupté rare, roulant dans ses cheveux, et la laissant frémissante et pâmée. Elle ne redescendait plus, exhaussée, comme tendue au-dessus d'elle-même dans une aspiration irrefoulée de ses seins. La lune, visiblement, s'était rapprochée. Les fêtes étaient si étranges que, pour regarder autour d'elle, elle se releva dans les eaux. Une infinie nappe brillante s'étendait jusqu'au loin. Là, sur d'immenses terrasses, un royal jardin, comme une île, émergeait seul, plein de calme et de paix de cette universelle ruine. Longtemps, elle contempla en silence ces ombrages inconnus, frémissant dans la lune et le ciel. C'était une terre heureuse. Le parfum de ces invisibles fleurs venait jusqu'à elle sur la brise marine. Un enchantement s'en exhalait, et tandis que doucement, à son insu, le sourd courant des eaux la portait, il lui semblait que maintenant la terre elle-même venait à sa rencontre. Mais elle était si solitaire et nue. Soudain elle se rejeta, les yeux sombres et une tristesse se répandit sur son visage. Les siens? Fallait-elle les abandonner, leur survivre? Ne fallait-il pas qu'elle redescende vers eux, qu'elle partageât leur obscure détresse? N'était-il pas son sang et son amour, eux, au-dessus de ce qui, ce profond désastre, l'avait si pénibilement porté? Il n'était plus. Et alors de quel droit d'immortalité vivait-elle? Elle se souvint de vagues paroles entendues autrefois, de légendes, d'être perdue là-haut, dans les eaux, dans les nuages, dans la lune, au jardin des fables. Il lui sembla que des voix douces l'appelaient au fond de l'abîme, que des bras se tendaient vers elle du fond des tombes. Lentement, elle descendit dans les eaux. Un instant encore, et pour en emporter à jamais sans doute au fond de son âme la prestigieuse ivresse, ses lèvres s'arrêtèrent à cette surface du bonheur. Puis ses yeux, à leur tour, disparurent, et l'or de ses cheveux se fondit dans les eaux. Elle pénétrait dans de froides ténèbres. Un jour de limbe, glauque et triste, à peine parvenait jusque-là. En bas, elle reconnut les arbustes, les sentiers autrefois parcourus, les pauvres fleurs noyées. Elle nageait à travers jusqu'à la pelouse. Tous étaient là, blêmes, affalés, englués de vases, silencieux. Leurs membres ballottaient dans les eaux, tristement, faisaient des gestes. Ils semblaient vivre encore. D'énormes poissons circulaient au milieu d'eux. Tous avaient gardé la même place, la même attitude, le même dodelinement de tête, la même expression de visage. L'oncle était toujours là, sur la berge, avec sa ligne, la vieille dame avec son chien, le pasteur assis en face. Sa mère aussi était là, mais ses mains ne s'agitaient pas comme celles des autres. Elle était immobile, et ses yeux semblaient la regarder, même du fond de l'autre monde, avec une expression d'insolite amour. Une pitié sans bornes emplit le cœur de l'héroïque enfant, et déjà elle se penchait pour ouvrir ses lèvres en un irrévocable baiser de mort sur le front de la chair morte, lorsqu'elle aperçut en un éclair de sinistre épouvante qu'il vivait. Il vivait! Et le sens de leurs attitudes, de leurs gestes, de la sévérité de leur visage, confusément, lui apparut. Même, il lui criait des paroles dont ses oreilles n'entendaient plus que les sons lointains et confus. Ainsi pour eux, nul désastre, nulle ruine, nulle ténèbre, nulle mort. Ils le disaient avec simplicité, ils étaient heureux. Ils buvaient toujours leur thé, fumaient leur pipe, faisaient des rêves, tout comme avant. L'oncle pêchait toujours de merveilleux poissons. Le pasteur, à cause de sa présence, s'était couvert le visage de ses mains. La vieille dame, de plus en plus, se scandalisait. Le sentiment des choses lui revint. Elle était nue au milieu d'eux, équivoque et fantasque, visiblement une gêne pour tous. On attendait sa justification. Mais comment leur répondre? Justifier cet exil, ce céleste voyage, son inviolable innocence? Comment faire comprendre à ces ombres la glorieuse et fatale volonté de Dieu? Comment leur dire à ces habitants de nuit les aurorales merveilles dont son âme encore et ses yeux étaient pleins, puisque pour eux, et leur existence se prouvait sans réponse, cela n'était pas. Et même, aurait-elle pu leur parler, sans mourir? Elle releva les yeux vers l'éternelle et lointaine contrée dont elle venait de s'exiler, et touchant la terre de ses pieds, d'un bond léger remonta sur les eaux. Oh! Rouvrir enfin à la vie ses lèvres closes, ses étouffants baisers, revoir le ciel, aspirer le ciel, remonter dans le ciel. Là-bas, les merveilleux ombrages aux blancheurs de la lune semblaient dormir en attendant. Elle, nuptiale et pleine de sourires, suivait en leur tendant ses mains l'invisible courant de ses destinées.